Daniel, Maurice Druon, il est mort. Maurice Druon, Maurice Druon, c'était un grand quand même, un mec de droite encore. René Monnery, Maurice Druon maintenant, deux mecs de droite, putain Daniel. Daniel, Maurice Druon, Maurice Druon, Maurice, maman pour les intimes. Maurice Druon, oh Maurice Druon, Daniel, Maurice Druon, oh là là, Maurice Druon.
Je me sens tout à fait en phase avec M. Michel Droit concernant la peine de mort. Et je pense que M. Badinter a fait une grosse erreur là-dessus. Et on en paye les conséquences tous les jours avec tout ce que les socialistes nous ont fait. Ils ont creusé une dette qu'il est impossible de colmater. Et naturellement, avec la crise maintenant... Ils disent que c'est nous, que c'est la droite qui la creuse, mais comment faire autrement, hein, pour soulager la misère de tout le monde. Mais je suis tout à fait en phase et j'aimais cette période et non pas la période de gauchisme sur la radio que doit payer le contribuable pour que vous affichiez vos convictions. C'est honteux.
Bonjour, c'est Thibaut de Lyon. J'ouvre un nouveau café repère pour les auditeurs de là-bas si j'y suis. Dans mon bistrot, chez Thibault, Café des Cultures, 80 rue Montesquieu, à Lyon 7e, je vous donne rendez-vous dès jeudi 19h30 pour une première rencontre organisée par la Traboule et son projet de médias citoyens. Pour toute information, visitez le site www.chezthibault.fr. Voilà, donc à jeudi, au plaisir de vous accueillir. Merci, au revoir.
Ah, les nécros, après Monnery, Druon. Alors on va nous bassiner avec cette vieille baderne répugnante. Et je voudrais juste préciser, parce que c'est le seul domaine dans son œuvre que je connaisse un petit peu, les rois maudits, mais c'est un tissu d'ânerie. Vous ne trouverez pas un médiéviste digne de ce nom, qu'il soit marxiste ou pas marxiste, pour vous dire autre chose que les rois maudits, c'est un tissu d'ânerie, c'est gala au Moyen-Âge, c'est lamentable, lamentable. Et voilà l'œuvre qui a fait, soi-disant, apprendre l'histoire de France aux jeunes et aux moins jeunes français. Ben, c'est une catastrophe. Ce type était à l'Académie française, il a nuit à la connaissance des Français concernant leur passé. Il a écrit des choses inexactes, caricaturales, putassières. Alors, j'aimerais bien que cet éloge funèbre dure le moins longtemps possible. Merci à tous.
Eh oui, un léger petit couac dans le cœur des louanges et des dithyrambes. Un léger petit couac que nous diffusons par simple souci d'objectivité pour tenter de rétablir un tant soit peu l'équilibre entre les pour et les contre selon les principes déontologiques des médias auxquels nous sommes tous tant attachés. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas sans un certain soulagement que l'équipe de là-bas, si j'y suis, a appris la mort d'un des plus grands terroristes français, un certain Maurice Druon, co-auteur du Chant des Partisans, qui est un infâme appel au meurtre et au sabotage auxquels sont incités les ouvriers, les paysans, les camarades, comme disait ce probablement stalinien de Maurice Druon. Car de quel parti sont les partisans qui l'interpellent? Oui, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Oui, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oui, saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. Alors que, grâce à George Bush, le monde entier lutte désormais contre le terrorisme. Vous imaginez une version en arabe du chant des partisans reprise par des combattants palestiniens ou par des black blocs allemands? Et qu'en pense Michel Alliot-Marie, qui nous protège de tout son corps et de tout son cœur contre les anarcho-terroristes tapis dans l'ombre de la petite épicerie de Tarnac. Michel va-t-elle fredonner le chant des partisans lors des funérailles de Maurice Druon? Où est les tueurs à la balle et au couteau? Tuez vite! Alors que les derniers d'Action Directe n'en finissent pas de croupir dans les prisons de la République, alors que la plus courtoise séquestration d'un patron suscite des levées de boucliers de la part des éditorialistes et non pas des Français qui au contraire applaudissent. Ainsi donc, aujourd'hui, toute la France fredonne et entonne cet hymne terroriste qu'est le chant des partisans. Est-ce qu'il n'y a pas là de quoi s'inquiéter devant ce peuple qui a fait de cette chanson un hymne national, une apologie du terrorisme et du lâche attentat? C'est la question que je vous pose aujourd'hui. Voilà en tout cas pourquoi cette émission ne traitera pas aujourd'hui de ce sujet. Aujourd'hui, notre sujet, c'est retour sur le lobby pro-israélien. Il y a au début du mois de février, on vous avait présenté une série de reportages sur ce sujet qui n'est pas facile. Comment le lobby pro-israélien aux États-Unis influe sur la politique étrangère des États-Unis. On avait essayé d'éclairer tout ça avec des témoignages, des reportages, et essentiellement tout cela s'articulait autour d'un livre qui a fait grand bruit, le livre de John Mearsheimer et Stephen Walt, Le lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine. Mais il nous manquait une histoire, il nous manquait un événement, il nous manquait quelque chose pour illustrer. Eh bien, cette affaire est arrivée. Cette affaire est arrivée à travers le retrait du poste d'ambassadeur de l'ambassadeur Charles Freeman, à la tête du NIC, qui est une sorte de super agence de renseignement. Barack Obama avait nommé Charles Freeman, un homme reconnu par tous pour ses qualités, sa compétence, sa connaissance. Je dis ambassadeur parce qu'il fut ambassadeur. Eh bien, il y a eu une campagne de la part de l'EPAC, c'est-à-dire du lobby pro-israélien, contre Charles Freeman, afin que cet homme n'occupe pas ce poste capital, important, névralgique pour la politique étrangère des États-Unis. Et si bien que Charles Freeman s'est retiré, n'a pas démissionné, puisqu'il n'avait pas pris le poste, mais n'a pas pris le poste, suite donc à cette campagne contre lui. Ça en dit assez long sur ce que risque d'être, peut être, la politique étrangère, la politique des États-Unis envers le Proche-Orient. Et évidemment, c'est un sujet qui ne peut pas ne pas nous intéresser, tant il y a là une poudrière et un point tout à fait névralgique. C'est notre sujet du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Intéressante l'envie de presse ce matin. Édifiante. Hein. Bon, Philippe Val n'est pas encore patron d'Inter, que Alain Le Gouguec, enfin bon, France Inter fait de la lèche, justement. Il ne suffit pas de dire, ouais, certaines personnes vont croire que je fais de la lèche, pour se dédouaner d'une lèche éhontée, citant cinq fois Charlie Hebdo pour une petite fois un dessin de Ciné Hebdo. Enfin, c'est grotesque, c'est risible, quoi. On va en rire plutôt que d'en pleurer, mais voilà, je n'ai rien à ajouter à ça. Je suis un peu désolé du tournant que France Inter risque de prendre sous la houlette du capot social traître Philippe Val. Ciao.
La première fois que je suis monté à Paris, j'avais 12 ans. J'allais passer mes vacances chez mon frère Jeannot, mon frère aîné. Ce n'était pas la découverte de la Tour Eiffel qui m'avait marqué, non. Non, c'était dans le métro, la présence des clodos qui étaient souvent étalés sur les bancs, sommeillants ou grognants, guetteurs de leur survivance. Mais ces bancs étaient leur lit, et la chaleur du lieu leur couverture. Bon, de nos jours, plus personne ne peut s'allonger sur les bancs, ni les amoureux, ni les clodos. De gentils ingénieurs et designers rajoutaient des barres, de dures barres, à chaque bout, interdisant tout repos. J'ai même vu la semaine dernière, à 30 km de chez moi, à Montélimar, de petits bancs, à peine 80 cm de long, mais avec une barre, pas deux, mais qui interdit quand même l'étalement du dos, jambes fléchies. Où ne va pas se nicher l'inhumanité? Dehors, les sans-foyers. Allez ailleurs, ailleurs, ailleurs. Comment être mis au banc de la société sans pouvoir les approcher? Ça me laisse très perplexe. Jackie Piquetto et Diolfi.
It is wonderful being here with all of you.
Sénatrice Hillary Clinton, 4 juin 2008.
Among so many friends.
C'est merveilleux d'être ici avec vous parmi tant d'amis.
The largest APAC gathering in history, and I feel like I am among family. And thank you for the warm welcome.
Le plus grand rassemblement de l'APAC dans l'histoire, et je me sens comme à la maison. Et merci pour l'accueil chaleureux.
APAC is America's pro-Israel lobby.
L'APAC est le lobby pro-israélien des États-Unis.
It's an organization of hundreds of thousands of Americans.
Ça représente des centaines de milliers d'Américains.
Of all faiths and backgrounds.
De toutes les fois et de tous les parcours individuels.
Who care about a strong U.S.-Israel relationship.
Qui sont soucieux d'avoir des liens forts entre Israël et les États-Unis.
And I know that when I visit APAC,
sénateur Barack Obama.
Et je sais que quand je viens à APAC,
I'm among friends.
Je suis chez des amis.
4 juin 2008.
Good friends.
De bons amis.
Virtually anybody who criticizes Israel's policies or who criticizes what the lobby is advocating is going to be accused of being anti-Semitic.
Virtuellement tous ceux qui critiquent ou la politique d'Israël ou la politique menée par ce lobby pro-israélien sont exposés à se faire critiquer, à se faire traiter d'antisémitisme.
Est-ce qu'il serait possible aux États-Unis qu'un candidat soit élu s'il manifestait son soutien à la cause palestinienne dans n'importe quel poste aux États-Unis?
History says no.
L'histoire dit
one
que non.
One or two have and they lost.
Il y en a un ou deux qui ont essayé, ils ont tous perdu.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Guy Vanctil. États-Unis, le lobby pro-israélien voyage autour d'un tabou.
This is GPS, the global public square.
Voici GPS, bienvenue à tous nos téléspectateurs dans le monde et aux États-Unis.
CNN, 15 mars 2009.
I'm Farid Zakaria.
Je suis Farid Zakaria.
This week, a man named Charles Freeman.
Cette semaine, un homme très distingué, l'ambassadeur Charles Freeman, a dû retirer sa candidature pour l'investiture à la tête du Comité national pour le renseignement. Un poste clé pour la sécurité. Et ce faisant, et là je le cite, il impute cette responsabilité au lobby pro-israélien. Ses opposants l'accusaient, lui, d'avoir un point de vue anti-israélien et d'être antisémite.
APAC, souvenez-vous, on en a longuement parlé au début du mois de février. L'APAC, c'est ce puissant lobby qui fait pression de façon permanente sur la politique étrangère des États-Unis, puissant lobby favorable à l'aile droite de la politique, de la scène politique israélienne, et qui opère depuis longtemps. L'APAC a été créé en 1951. L'APAC compte 100 000 adhérents qui font des dons. C'est un budget de plusieurs millions de dollars. C'est un réseau important, aussi bien chez les démocrates que chez les républicains et chez les chrétiens pro-israéliens. 165 employés, un budget annuel de 45 millions de dollars et 70 organisations affiliées. On avait longuement parlé de ce lobby. Or, récemment, il y a eu très peu d'écho dans la presse française en tout cas. Il y a eu une preuve du poids de ce lobby, c'est la démission de Charles Freeman de son poste de directeur du NIC. Le NIC, c'est le National Intelligence Service, c'est une institution qui renseigne sur le renseignement. Il y a 16 agences de renseignement aux États-Unis, dont la CIA, mais la CIA n'est qu'une de ces agences de renseignement, il y en a d'autres, renseignement militaire, etc., etc. Et le NIC collecte et analyse les renseignements de ces agences, pour qui, pourquoi, et bien évidemment, pour l'administration, pour
le président des États-Unis. C'est donc un poste clé d'une importance majeure. Or, Charles Freeman, celui qui a été nommé par Barack Obama et qui faisait l'unanimité pour ses qualités, pour ses relations à travers le monde, et évidemment, premier plan, au Proche-Orient et au Moyen-Orient, eh bien, Charles Freeman ne plaisait pas aux amis américains de la droite dure israélienne. Et le lobby, le lobby pro-israélien, les PAC en l'occurrence, a déclenché une campagne de diffamation contre Charles Freeman, le soupçonnant d'antisémitisme larvé, de tout un tas de vilainies, si bien que Charles Freeman a préféré ne pas prendre le poste, disant que il pourrait pas du tout exercer sa mission, puisqu'il aurait en permanence des pressions de ce genre qui rendraient son travail impossible. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que celui qui a été en tête de ces attaques contre Charles Freeman, c'est un certain Steve Rosen, qui est un ancien chef de l'EPAC et qui lui-même est inculpé pour espionnage pour le compte des services israéliens. Et son procès s'ouvre prochainement, dans les semaines qui viennent, aux États-Unis. C'est une histoire intéressante. Pourquoi ? Parce que le Proche-Orient, faut-il le rappeler, est une poudrière, parce que c'est un point névralgique qui nous concerne, qui nous regarde. C'est un sujet toujours passionnel, passionnant aussi, et que nous essayons d'aborder et d'approcher par l'autre côté, c'est-à-dire par les États-Unis d'Amérique. Et quant à ceux qui, évidemment, ont placé de l'espoir, beaucoup d'espoir, dans la politique de Barack Obama et du nouveau gouvernement américain pour ce qui concerne une paix possible au Proche-Orient, qui passera inévitablement par la création d'un État palestinien viable, il y a là des renseignements, des informations et des réflexions possibles. C'est jusqu'à 16h. C'est là-bas si j'y suis.
Yo, APAC, come take my status. I'm acrobatic and emphatic when attacking Zionists.
Ouais, APAC, viens jeter un œil. Je suis acrobate dans l'emphase pour m'attaquer aux sionistes.
I can barely stand it cause I hear the same lines all the time. I take the words to wipe my behind.
Je ne supporte plus parce que j'entends toujours la même chose. Leurs paroles, je me torche avec.
Soundbites like Simus and Grooving unoriginal. So act, the arguments should be criminal. I can summarize their lines better than them. I'll give a free sampling to you, my friend.
Des mots comme de la bile, rien d'original, totalement débile, on dirait des criminels. Ce qu'ils disent, je te le résume, facile.
Israel only acts defensively and targets terrorists exclusively.
Israël ne fait que se défendre et ne s'en prend qu'aux terroristes. Parce que tu vois, Israël, c'est la seule vraie démocratie dans la région. Si la Shoah te rend vraiment triste, alors tu dois soutenir l'État juif. Si tu le critiques, c'est que tu es rongé par la haine. Nous avons signé la paix, mais les Arabes l'ont rejeté en se faisant passer pour des victimes. Ils sont balèzes pour ça. Ce n'est pas notre faute s'ils se sont tirés en 48 quand les armées arabes ont tenté d'en finir avec notre petit État perdu au beau milieu d'une mer de haine arabe. Nous ne voulons juste qu'une petite parcelle de terre. Nous ferons la paix quand Arafat respectera nos clauses. Fais-moi confiance, c'est nous qui voulons la paix. Les terroristes sont comme une maladie pour Israël et l'ami des États-Unis au Moyen-Orient. Nous combattons le même ennemi. En 35 secondes, je te balance la rhétorique israélienne mieux qu'eux-mêmes, parce que leurs arguments sont faibles. Et je les ai tous entendus avant. Et ça ne tient pas face à la vérité. Et maintenant, c'est ce qu'il faut faire. Dire la vérité. Alors attention, la voici.
CNN, 15
mars 2009.
And joining me now, Ambassador Charles Freeman.
Nous retrouvons maintenant l'ambassadeur Charles Freeman.
Welcome on the show.
Ravi de vous avoir en studio.
Thank you, glad to be with you.
Merci, je suis content d'être avec vous.
Let me first ask you, you describe
Monsieur l'ambassadeur, vous avez décrit les forces qui vous ont éjecté comme le lobby israélien.
What you mean by the Israel lobby and
que voulez-vous dire par le lobby israélien?
Well, the Israel lobby is
oui, je pense déjà que le terme de lobby israélien est un terme communément admis, mais qui n'est pas très juste. Il faudrait, je pense, dire plutôt le lobby du Likoud ou le lobby de la droite extrême israélienne. C'est l'alliance de l'aile d'extrême droite de la communauté juive ici aux États-Unis avec les partis d'extrême droite en Israël. Et ils ont mené une campagne absolument odieuse de paroles tronquées, de citations biaisées, en me faisant tenir des propos que je n'ai absolument pas tenus pour m'attaquer, ce qui est odieux.
Mais vous savez que quand vous parlez du lobby israélien, pour certains juifs, pas tous, ça peut signifier que vous insinuez la théorie du complot juif. Ce qui a amené certaines personnes à vous qualifier d'antisémite. Comment ressentez-vous ces attaques?
Je me sens très insulté. C'est la dernière chose au monde que je sois un antisémite. J'ai beaucoup de respect pour le judaïsme et pour ses fidèles. Et j'ai sincèrement aussi beaucoup de respect pour Israël. Et je suis désolé de voir ce pays à ce point corrompu par l'occupation et de voir aussi ses valeurs à ce point entaché par les colonies dans les territoires occupés. L'esprit des Lumières que représentait Israël est maintenant incarné par quelque chose d'autre.
Ainsi parle donc sur CNN ce Charles Freeman, à peine nommé par Obama. Il était donc le nouveau directeur du National Intelligence Council, NIC, et il a dû se retirer à cause des lobbies pro-israéliens qui avaient lancé une campagne contre lui. Très peu d'écho de cela dans la presse française, alors que tout ça s'est passé au grand jour. Les attaques étaient publiques, elles circulaient sur Internet et dans une partie de la presse américaine. En France, très très peu d'écho. Un écho cependant sur le site en ligne Bakchich, un papier d'un journaliste franco-américain, Doug Hyland, que nous appelons à New York. Doug Hyland, bonjour. Vous êtes à New York. Vous êtes journaliste pour plusieurs journaux, dont le journal en ligne français Bakchich. Vous travaillez pour The Nation, qui est un hebdomadaire, disons, classé à gauche aux États-Unis. Là, ce qui nous intéresse, Doug, c'est que vous nous racontiez la façon dont Charles Freeman a été démissionné, parce que tout le monde avait beaucoup d'espoir quant à la politique du président Obama concernant le Proche-Orient. Et la démission de Charles Freeman a quand même beaucoup refroidi ceux qui étaient chauds d'espérance. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette histoire?
Tout à fait. Charles Freeman est un diplomate de longue date. Il était nommé à ce poste où il devait coordonner les renseignements qui viennent de 16 agences de renseignements différents au sein du gouvernement fédéral. Mais quand la nouvelle de sa nomination a filtré, il y avait une tollée provoquée par toute une brochette de lobbyistes pro-israéliens, parce que Freeman n'a pas hésité de critiquer Israël pour sa politique envers les Palestiniens. Ce que les lobbyistes pro-israéliens tentent de dépeindre comme une espèce d'antisémitisme, ce qui est complètement faux. La campagne était lancée par l'ancien lobbyiste en chef pour AIPAC, c'est-à-dire American Israel Public Affairs Committee, ce qui est le plus puissant lobby pro-israélien aux États-Unis. Alors, ce type avait mis des calomnies contre Freeman sur son blog, il a téléphoné à un journaliste, il a téléphoné aux membres d'un congrès américain, et il a vraiment lancé la campagne de déstabilisation de Freeman avec toutes sortes de mensonges et de basses procédés qui vraiment étaient répugnants. Et le triste fin de l'histoire, c'est qu'au lieu de défendre l'excellent Charles Freeman, Obama n'a jamais dit un mot de le défendre, et il était pressé par la Maison-Blanche de démissionner à cause de ses attaques par l'aile droite de la communauté juive américaine. Il est toujours assez vrai que c'est interdit de parler en public de manière sympathique à la tragédie palestinienne. Je pense plutôt que l'attitude de Freeman est la seule possible attitude qui puisse sauver Israël, puisque Israël est en train de fabriquer des ennemis nouveaux tous les jours. La guerre en Gaza, qui était absolument démesurée, a beaucoup contribué à donner des munitions aux ennemis d'Israël.
Mais donc, pour revenir à Charles Freeman, on peut voir les choses autrement. Vous nous dites qu'Obama n'a rien dit, mais qui l'a défendu dans les médias, sur la scène intellectuelle? Est-ce qu'il y a d'autres lobbies qui sont venus à son secours?
Oh, il y avait quelques-uns qui le défendaient, mais des gens de taille. Par exemple, le doyen des chroniqueurs politiques du Washington Post, David Broder, qui est un homme très respecté, a écrit une chronique où il a défendu bec et ongle Freeman comme un diplomate distingué. Le Baltimore Sun, un quotidien très respecté pour sa couverture des affaires étrangères, avait aussi pris la défense de Charles Freeman. Donc il y avait des voix qui se sont élevées pour le défendre, puisqu'après tout, il a une longue carrière derrière lui. Mais c'était à la fin la puissance des lobbies pro-israéliens et le relais dans les médias et dans le Congrès qui ont tout le mot final et a dit à Charles Freeman, c'est triste. Et pour ceux qui espéraient un vrai changement dans la politique américaine, qui espéraient une politique plus équilibrée au lieu d'un soutien sans faille au gouvernement israélien, sont archi déçus par la vitesse avec laquelle Freeman était viré après la campagne de calomnie lancée contre lui. Mm. C'est un très mauvais signe. Mais à vrai dire, pas surprenant si on a été présent pour le discours de Barack Obama pendant la campagne électorale. Obama était allé à la convention de AIPAC. Et il a livré un discours très musclé qui plaisait beaucoup aux faucons israéliens. Il n'y aura pas une inflexion, un changement significatif dans le soutien sans faille offert par Washington à Israël.
And I know that when I visit AIPAC,
sénateur Barack Obama,
et je sais que quand je viens à AIPAC,
I'm among friends.
Je suis chez des amis.
4 juin 2008.
Good friends.
De bons amis.
Friends who share my strong commitment to make sure that the bond between the United States and Israel is unbreakable today.
Des amis engagés à faire en sorte que le lien entre les États-Unis et Israël ne puisse être rompu, ni aujourd'hui,
unbreakable tomorrow,
ni demain,
unbreakable forever,
ni jamais.
Barack Obama avait promis que le lobbyiste ne ferait pas la politique et pourtant. Entre 1972 et 2006, Washington a mis son veto à 42 résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui critiquaient la politique israélienne. Chaque année, Israël continue de recevoir 3 milliards de dollars d'aide américaine, c'est-à-dire un sixième de l'aide étrangère des États-Unis. La question est pourquoi les États fournissent un soutien matériel et diplomatique aussi considérable et aussi constant? C'est la question que se sont posées, il y a déjà un certain temps, deux chercheurs américains, Don Mersheimer et Stéphane Walt, et ils ont écrit un livre qui a eu beaucoup de conséquences, le lobby pro-israélien, et c'était la politique étrangère américaine. Ça a été la base de notre suite de reportages au début du mois de février qu'on vous avait présenté. Mais il y a eu cet événement que nous sommes en train d'évoquer. Qu'en pense l'un des auteurs, John Mersheimer? Lors de notre reportage au mois de janvier, on avait l'impression que les PAC devenait plus modérée, pour pas dire qu'elle était un peu affaiblie. On voit qu'on s'est trompé. Quelle a été la méthode de l'EPAC pour discréditer Charles Freeman?
Well, let me make two points. First of all, the Israel lobby, and AIPAC in particular, always like to keep a low profile.
Oui, déjà, il faut mettre les choses au clair, le lobby pro-israélien et l'EPAC en particulier jouent toujours au profil bas.
And in the case of Chaz Freeman, they did not want to leave any fingerprints.
Et dans le cas de Chaz Freeman, ils ont voulu ne laisser aucune empreinte digitale sur les lieux.
But the real problem they faced was that the story was covered extensively on the internet.
Mais le vrai problème auquel ils ont dû faire face, c'est que toute l'histoire a été couverte abondamment sur internet.
So that it was widely understood in the United States that it was the Israel lobby that was largely responsible for derailing the Chaz Freeman appointment.
Et du coup, il était assez communément admis aux États-Unis que c'était le lobby pro-israélien qui avait mis tous les moyens en œuvre pour pouvoir évacuer, éjecter Chaz Freeman.
Quelle a été l'ampleur de la campagne contre Chaz Freeman?
The campaign focused mainly in Congress.
Ça s'est surtout concentré au Congrès.
The Israel lobby is at its most powerful on Capitol Hill.
Parce que c'est sur Capitol Hill, la colline du Congrès, que le lobby pro-israélien est le plus efficace.
Were very successful because congressmen and senators from both the Republican Party and the Democratic Party almost immediately began to put pressure on the White House.
Et ça a très bien réussi, puisque les congressistes et les sénateurs, qu'ils soient républicains ou démocrates, ont aussitôt embrayé en mettant la pression sur la Maison-Blanche pour évacuer Chaz Freeman.
Alors, quelles sont vos conclusions? Quelles leçons vous tirez de cette histoire?
First, it made it clear to a lot of people what the lobby is up to.
Déjà, ça a rendu clair pour beaucoup de gens ce dont le lobby est capable.
It was a public display of power which did not show the lobby in a favorable light.
C'était vraiment une manifestation publique de son pouvoir qui ne montrait pas le lobby sous un jour avantageux.
Mais en quoi est-ce que Charles Freeman gênait-il les faucons pro-israéliens?
The main problem is that the Israel lobby does not want any criticism of Israel to be legitimized.
Le problème, en fait, c'est que le lobby pro-israélien ne veut qu'aucune critique d'Israël soit légitimée.
Because they fear that if people like Chaz Freeman and John Mearsheimer and Steve Walt and Jimmy Carter get a conversation going in the mainstream media about Israel, then what will happen is that Americans will begin to question the special relationship.
Parce que pour eux, la principale crainte, c'est que des gens comme Chaz Freeman ou comme moi et Stephen Walt ou comme l'ancien président Jimmy Carter, si on amène ce débat sur les médias dominants américains, après, ça ouvrira la possibilité pour les Américains de remettre en question cette relation très particulière.
Votre amour et votre soutien envers l'État d'Israël garantit que l'alliance entre les États-Unis et l'État d'Israël sera toujours défendue.
If you really want to make a meaningful difference,
si vous voulez vraiment peser,
AIPAC is the place to be.
C'est aux côtés de AIPAC qu'il faut vous engager.
There is much work to be done.
Il y a beaucoup de travail à faire.
And only us
et nous seuls pour le faire.
Dans leur livre, John Mearsheimer et Stephen Walt arrivent à la conclusion que le lobby pro-israélien, les PAC, est tout puissant, mais que l'influence de l'EPAC est à la fois mauvais pour la politique extérieure, étrangère des États-Unis, qui, concernant le Proche-Orient, est la pièce maîtresse de cette politique, et également néfaste à la politique israélienne, ce que vient de dire aussi à sa façon Charles Freeman. Qu'en pense Noam Chomsky ? Il a une thèse un peu différente et nous l'avons appelé à Boston.
Allô ?
Hello.
Oui, Noam Chomsky, on aimerait savoir votre point de vue sur le rôle du lobby pro-israélien aux États-Unis et en Israël.
It's certainly significant. It's one of the more substantial lobbies. I mean, it doesn't begin to compare with the major lobbies. The business lobbies, Chamber of Commerce and others are vastly more powerful.
C'est bien sûr que c'est un lobby important qui a un grand pouvoir, mais qui n'arrive pas en compétition avec les principaux lobbies, que sont les lobbies du business, comme la Chambre de commerce américaine.
The Israeli lobby has been influential, particularly since 1967. In 1967, the United States and Israel formed the very strong alliance that still persists.
Le lobby israélien a commencé vraiment à prendre un poids sur la politique américaine à partir de 1967, quand les États-Unis et Israël ont commencé à sceller une alliance qui existe encore aujourd'hui.
And that almost reflexively turned into very strong support for Israel in the media among intellectuals. Of course, there was huge support among Christian evangelicals. That's the major popular support, and so on.
Et donc tout ça s'est traduit par un soutien massif d'Israël dans les médias américains, dans les milieux politiques, et bien sûr aussi un très grand soutien auprès des religieux évangélistes qui ont plaidé la cause d'Israël.
And in that context, an Israeli lobby had a pretty easy time pushing forward much of its agenda.
Et dans ce contexte-ci, c'était très facile pour un lobby pro-israélien de faire avancer ses revendications dans un tel contexte.
And I think speaking rather generally, we can say that the Israeli lobby has been influential in respect to issues which are of not much concern to U.S. power centers, state and private.
Et je crois qu'on peut dire, en fin de compte, que le lobby pro-israélien a été influent sur des questions qui ne touchaient pas le pouvoir des États-Unis essentiellement.
Mm-hmm. So, for example, crushing the Palestinians is of no concern to the U.S. government.
Écraser les Palestiniens, ça n'avait aucun rapport, enfin aucune conséquence pour le gouvernement américain.
Or American corporate system.
Ou pour les systèmes des multinationales américaines.
And in fact, the general policies of the lobby are highly supported by U.S. corporate power.
Et d'une manière générale, les préoccupations du lobby sont vraiment encouragées ou suivies par celles des multinationales au pouvoir.
And of course, military industry, which is very pleased with the Israeli connection.
Et bien sûr, il y a aussi l'industrie militaire qui est très satisfaite du contexte israélien.
On the other hand, Palestinians offer nothing to U.S. power interests.
Alors que de l'autre côté, les Palestiniens n'ont rien à offrir aux intérêts du pouvoir américain.
So it's not in the least surprising, given that balance of services, that the United States supports Israeli actions and that the lobby is effective insofar as it falls within that framework.
Et donc, dans cet échange de bons procédés, il n'est pas étonnant de voir que les États-Unis seront d'accord avec le lobby et le lobby arrive à retrouver ses revendications écoutées par les États-Unis.
On the other hand, if we really want to evaluate the power of the lobby, just as a matter of logic, we have to consider the cases where its efforts conflict with U.S. power interests.
Mais si on veut pouvoir évaluer le pouvoir du lobby d'une manière logique et palpable, il faut voir justement les cas où les intérêts du lobby s'opposent aux intérêts nationaux américains.
And there are many such cases.
Il y a beaucoup de cas de ce genre.
And we find uniformly that the lobby disappears.
Et à chaque fois, le rôle du lobby s'évanouit.
So just to take one recent example, last summer, the lobby was pressing very hard for a congressional resolution to impose what amounted to a blockade on Iran.
Par exemple, l'été dernier, le lobby a fait une pression très très forte pour que le Congrès vote une résolution d'un blocus sur l'Iran.
At first they did gather many congressional votes, but as soon as the government indicated that it was opposed to this, the whole issue disappeared.
Alors au départ, le lobby a eu beaucoup de votes de congressistes, mais dès que le gouvernement a signifié qu'il s'opposerait, tous ses soutiens se sont évanouis.
What's again?
to the perimeter. Blue ops cover up for the new cops. Manning up the world of Desert League, but not enough to build a better league. Hand the cuffs over with he was here to bleed. Wanna be a martyr, go head in a direction that's been run to death in seconds. Coming next is liberation. Televised meditation on every station and become one with creation. Geppetto, walking terror is harder to shoot when you know it's self on the other end of the barrel. Narrow knowledge expanding the wisdom with prophecies and roles to play. Make a need for the system. Free will must be connected by vision. Nitroglycerin fused light. No excuse, right? Who's right? Until we all choose life, there's a reason for the bickering.
We've been set to turn off the onslaught. Let it sit, we strike when the iron's hot. Give and accept, we waste not, we want not. Let it sit, we strike when the iron's hot.
Visionary, now we back up in the spot, claiming never been gone.
Visionary. We ain't never left, we just moved in silence and rep to the death.
Break the cycle, this survival of the fittest, we'll get us fighting over the littlest. Materialistic, false bliss, we witness imperialistic crusades. But for whose sake does it benefit? Budget deficit, 75 bill, picture friends of the president. For defense contracts to tax the people and fight the so-called axis of evil. While leaving the loan issues at home, our children need food, shelter, and proper healthcare, and a chance for a better education. Not the army as an only choice of occupation. God won't bless this damnation. It's up to our generation to make the changes. Right the wrong, write the songs, strike strong, pass it along and fight on.
Il faut toujours rappeler, c'est que les PAC, le lobby pro-israélien aux États-Unis, ne représente pas la communauté juive américaine, ne représente pas l'opinion majoritaire des juifs américains, pas plus d'ailleurs que le CRIF en France ne représente l'opinion des Français juifs. C'est un élément quand même intéressant. Sur le poids de ce lobby, sur son rôle vis-à-vis de la politique étrangère des États-Unis et vis-à-vis d'Israël, le point de vue de Serge Halimi, directeur du Monde Diplomatique.
Serge Halimi, on vient vous voir à l'issue de cette série d'entretiens autour des livres de Walt Mersheimer sur le poids du lobby pro-israélien. Simplement, on est allé jusque là-bas pour les enregistrer. Et voilà qu'en faisant des recherches sur Internet, je trouve que vous avez une antériorité sur ce sujet, puisque je vois un article signé Serge Halimi, « Le poids du lobby pro-israélien aux États-Unis ». Simplement, cet article est daté d'août 89.
Oui, c'est l'un de mes premiers articles dans le monde diplomatique. Effectivement, c'est une question qui était assez peu traitée dans la presse française, parce qu'elle est toujours un peu explosive dans la mesure où elle concerne à la fois Israël, les Juifs américains, le système politique américain, le poids de l'argent dans le système politique américain. Et il est toujours un peu difficile de mêler ces registres sans s'exposer aux accusations que vous imaginez. Mais dans le cas d'espèce... Moi, j'avais retrouvé une déclaration de Nahum Goldman, qui était le président du Congrès juif mondial, et qui, en novembre 1978, avait demandé au président Carter, qui était le président des États-Unis à l'époque, de briser ce qu'il appelait lui-même, Nahum Goldman, président du Congrès juif mondial, le lobby juif, qui, à ses yeux, représentait une force de destruction, un obstacle à la paix au Proche-Orient. Et lorsqu'on voit un certain nombre d'événements liés au choix stratégique américain, en particulier concernant le Proche-Orient, on voit qu'effectivement il y a une difficulté pour l'exécutif américain de prendre des positions qui heurteraient les intérêts de l'aile la plus intransigeante du gouvernement israélien. Alors bien sûr, la grande question, c'est de savoir si ce lobby pro-israélien ne fait que conforter une tendance naturelle de l'administration américaine à soutenir Israël quoi qu'il arrive, parce qu'Israël représente un allié stratégique pour les États-Unis, ou si parfois, et c'est ce que suggère Walter Mersheimer, ou si parfois ce lobby pro-israélien impose au gouvernement américain des prises de position qui ne correspondent pas à l'intérêt stratégique des États-Unis. Moi, je pense qu'il est certain que le lobby pro-israélien joue un rôle. Et il est probable que ce rôle n'est pas toujours favorable, même du point de vue des intérêts américains. Alors comment ça s'est passé ? C'est vraiment une organisation qu'on ne comprend que quand on connaît le système politique américain, quand on sait que, par exemple, le Congrès joue un rôle majeur lorsqu'il s'agit de définir la politique étrangère des États-Unis, de financer un certain nombre de programmes d'aide à l'étranger et de s'opposer, le cas échéant, à des décisions diplomatiques du président des États-Unis. Et le Congrès, la branche du Congrès qui joue le rôle le plus important, c'est le Sénat. Alors, il y a 100 sénateurs, 2 sont élus dans chaque État, et ils sont élus pour 6 ans, quelle que soit la population de l'État. Alors, a priori, on peut se dire que les États où il y a une population juive importante seront plus disposés à soutenir la politique israélienne dans la mesure où l'électorat juif américain se déterminerait en fonction des choix du gouvernement américain par rapport à Israël. Mais les États où il y a une population juive importante ne sont pas très nombreux aux États-Unis. Vous avez essentiellement New York, le New Jersey, la Floride, l'Illinois. Ce sont les États auxquels tout le monde pense, donc ça fait 8 sénateurs. Bon, le seul problème, c'est que quand vous êtes au Kansas, ou quand vous êtes en Iowa, ou quand vous êtes en Caroline du Nord, l'électorat juif est très minoritaire, et donc l'élu pourrait se déterminer librement en fonction de ce qu'il perçoit, à la fois comme sa conviction à lui, ou comme les intérêts stratégiques des États-Unis. Et donc, assez vite, le lobby pro-israélien a décidé d'élargir en quelque sorte le champ de son action à des États où il n'y avait pas une population juive, mais où il faisait savoir aux élus que s'ils soutenaient la position israélienne, ils disposeraient d'apports financiers. Et, dans le cas contraire, que ces élus trouveraient face à eux, lors de l'élection primaire et lors de l'élection générale, quelqu'un qui serait financé par le lobby pro-israélien.
Ou vous êtes avec nous, ou vous êtes contre nous.
Voilà. Et si vous êtes contre nous, après tout, il n'y a rien d'illégal. C'est comme ça que fonctionne le système politique américain. Nous, on se mobilisera en tant qu'organisation, avec les fonds dont nous disposons, pour aider un candidat qui, lui, défendra notre position.
C'est un peu comme si c'était le parti politique d'une seule cause, Israël.
Exactement. Mais c'est comme ça que fonctionnent les lobbies. Comme la National Rifle Association n'a qu'un objectif, c'est la vente libre des armes à feu. Le reste, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez augmenter les impôts, réduire les impôts, les limites de vitesse, les faire voler, les augmenter, ça n'a pas d'importance. Le lobby pro-israélien ne fonctionne qu'autour de ce motif. Et sa sophistication politique tient au fait que, alors que précédemment, pendant très longtemps, pendant des décennies, il s'occupait surtout des démocrates et il était surtout mobilisé dans les États où il y avait une population juive importante. Ensuite, il a étendu son champ d'action à l'ensemble du pays, s'adressant par exemple, je prends cet exemple comme ça, au hasard, aux représentants de la 3e circonscription du Nebraska, en lui disant « Chez vous, il n'y a pas de juifs, il n'y a pas d'arabes, c'est une question qui n'intéresse personne, mais si vous votez pour soutenir la position israélienne à chaque fois qu'on vous le demandera, eh bien vous aurez des financements adéquats pour vous permettre de dissuader tout candidat de se présenter contre vous. C'est une, en quelque sorte une assurance réélection.
C'est ça, c'est la question de politique étrangère qui est devenue une question sur l'échiquier national voilà. Américain.
Et il ne s'agit pas uniquement d'échafauder ça comme une théorie. C'est qu'il y a eu des exemples très précis qui ont marqué un certain nombre d'élus républicains et démocrates. En 1982, lorsque vous avez un parlementaire républicain, cette fois-ci, qui s'appelle Paul Findlay. Donc le nom est resté célèbre parce qu'il a écrit un livre pour, en quelque sorte, évoquer ses déboires avec le lobby pro-israélien qui était titré « They dare to speak out ». Ils osent parler librement. Et il racontait que, parce qu'il avait pris des positions favorables aux pays arabes et aux Palestiniens, il avait eu contre lui un adversaire lors de l'élection primaire et qu'il avait été battu lors de l'élection générale. Le lobby israélien s'est mobilisé, en quelque sorte, pour financer un challenger républicain. Et ce challenger républicain a fait mordre la poussière à cet élu qui avait été élu et réélu 4 ou 5 fois.
Alors, conclusion provisoire avec Stephen Walt, l'un des auteurs du lobby pro-israélien.
Quelle est la solution à ça? C'est désarmer ce lobby ou créer d'autres lobbies pour lutter contre ce lobby?
First thing we need to have is just an open discussion of these issues.
Ce qu'on dit dans le livre, c'est que la première chose à faire d'abord, c'est qu'il y ait un débat ouvert sur toutes ces questions-là.
And we believe that encouraging groups who care about this issue but or who support policies that make more sense is a good idea.
Déjà, donc soutenir des groupes qui sont concernés par la même question mais qui proposent des visions alternatives, déjà ça c'est une bonne chose.
There would be absolutely nothing wrong with having politically powerful pro-Israel groups in the United States or in France or anywhere else if those groups were supporting policies that were smarter.
Voilà. Moi, je ne verrais aucun inconvénient à ce qu'il y ait des groupes de soutien des politiques israéliennes aux États-Unis, mais aussi en France et en Europe, pourvu qu'ils encouragent des politiques qui soient sensées.
We ought to have a normal relationship with Israel.
On devrait avoir une relation normale avec Israël.
That would be better for us, but that would also be better for Israel.
Ça serait mieux pour nous, mais ça serait aussi mieux pour Israël, bien sûr.
You know, good friends tell each other when they're doing something wrong.
Des bons amis se disent les uns aux autres quand il y en a un qui déconne.
But that's very hard for us to do right now.
Mais c'est quelque chose de très dur à faire pour nous aujourd'hui.
Une dernière observation qu'on entend très souvent, c'est un tout petit pays, un tout petit confetti, Israël, un tout petit confetti, au milieu d'un océan d'hostilité, de méchanceté, de férocité arabe, un petit îlot de civilisation et de démocratie au milieu d'un océan de barbarie. Et voilà pourquoi nous devons défendre Israël. Il y a une sorte de cause là aussi qui est très présente dans l'opinion générale.
First of all, I think to refer to the Arab world as barbarians is completely wrong.
Déjà, première chose, c'est de parler des Arabes, du monde arabe comme barbare est complètement erroné.
Yes, Israel is a democracy, but it is not a perfect society by any means.
And oui, Israël est une démocratie, mais c'est surtout pas une société parfaite.
And there are ways in which Israeli democracy is clearly deeply flawed, most obviously in the fact that they continue to exert power over millions of Palestinians who are denied essentially all political rights.
Whether... Et par exemple, le simple fait qu'on dénie tout droit politique en exerçant un pouvoir sur des millions de Palestiniens au nom d'Israël, qui est parfaitement injustifié.
Equally important, there is this image that people still have of Israel as a tiny David surrounded by this enormous Arab Goliath.
Et puis il y a aussi cette cliché qui voudrait qu'Israël soit le petit David face à ce entouré par ces gigantesques Goliaths arabes.
I would just remind everyone that Israel won the war in 1948, in 1956, in 1967, in 1973.
Et je voudrais juste rappeler que Israël a gagné toutes les guerres de 48, 56, 67.
It is a country with several hundred nuclear weapons.
C'est un pays qui a plusieurs centaines d'ogives nucléaires.
A very powerful military.
Une armée très puissante.
And a prosperous economy.
Et une économie prospère.
The most important thing for Israel to do now is to make peace with its neighbors.
Et le plus important que puisse faire Israël aujourd'hui, c'est faire la paix avec ses voisins.
Build on the Arab League peace plan of 2007.
En s'appuyant sur le plan de paix de la Ligue arabe de 2007.
Allow the Palestinians to have a viable state of their own.
C'est-à-dire rendre possible un état viable pour les Palestiniens.
And then to live in peace with all of the peoples around it. I believe that's possible.
Et moi, je crois que c'est tout à fait possible qu'on passe à cette étape-là, c'est-à-dire vivre en paix avec les pays voisins.
But Israel and the Palestinians and the Arabs are going to need our help and the Europeans' help to get there.
Mais simplement, Israël, les pays arabes et les Israéliens vont avoir besoin de notre aide américaine, mais aussi de l'aide européenne pour en arriver là.
The traffic lights weren't working. Starlink jammed. In the area, more than 3 million people lost electricity after a fire at a transmission center. ABC's Jeffrey Kaufman reports from Miami.
Merci à tous. Merci. John Mersheimer, Noam Chomsky, Serge Halimi, Doug Ireland. C'était un reportage avec Guy Vanty. Je rappelle à nouveau le titre de l'ouvrage de Mersheimer et Walt. C'est Le lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine. La traduction française était aux éditions de La Découverte. Et nous attendons évidemment sur ce sujet vos réactions, vos impressions, coups de gueule et coups de cœur sur le répondeur de la base J'y suis au 01 56 40 37 37. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, la rubrique émission La base J'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission ainsi que sur labas.org, la-bas.org. La technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Claudine Lapersonne. C'est Koyen Guyen et Raphaël Moutet qui ont réalisé cette émission, assistée de Charlotte Perry et Agnès Lebot. C'est elle qui attend vos messages au coin du répondeur au 01 56 40 37 37. Il me reste une seconde pour vous signaler un livre qui va sortir le 14 mai. Aux éditions aussi La Découverte, de Denis Siffert, l'éditorialiste de Politis, La nouvelle guerre médiatique israélienne. Réclame.